France Culture.
On imagine souvent les chefs français comme fiers et orgueilleux, défendant bec et ongles les produits et le savoir-faire de leur terre natale. C'est d'ailleurs le reflet des Français eux-mêmes, souvent empreints d'un certain chauvinisme quant à leur culture gastronomique. Ce n'est pas le cas du chef triplement étoilé Alain Sandrins, qui déclare au micro de Stéphane Delisgeorges, dans ce numéro de l'Esprit de Perfection, « La cuisine japonaise a 200 ans d'avance ». Qu'entend-il par cette formule choc, un brin provocatrice? C'est avant tout que la cuisine japonaise valorise le produit pour le produit, le mettant en valeur dans sa forme la plus brute. L'important n'est pas de créer une complexité surannée, de vouloir impressionner à coups de techniques virtuoses. Le but est la perfection dans la simplicité, d'envoyer une assiette parfaite au client. Le cuisinier de sa brigade qui rate un plat et a le malheur de l'envoyer au client est viré sur le champ. Telle est l'exigence et l'intransigeance de ce grand chef de caractère, nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2004. Une émission diffusée pour la première fois le 22 novembre 1987.
L'esprit de perfection. Une émission de Stéphane Delisgeorges. La cuisine est l'affaire des femmes, mieux peut-être que celle des hommes, car la cuisine est amour. Il n'est pas de science exacte en la matière, il n'est pas de règles strictes en amour. Mieux vaut la première fois rater un plat que de le réussir banalement comme un autre. Il y faut des épices, certes, mais plus de cœur que d'épices. Et puis après, on en parle. Parler d'un plat réussi, c'est le déguster deux fois. Et l'appétit, alors, devient récompense. La cuisine, mesdames, c'est un conte de fées. Courtine.
C'est devenu une habitude, comme en 1985, lors de notre précédent périple chez les perfectionnistes de Lyon et des environs. Cette fois encore, nous avons rencontré un chef, un grand chef, un inventeur culinaire. Près de Lyon, à l'Orée des Dombes, pays d'oiseaux et d'étangs à Mionnet, nous avions été visiter Alain Chapelle. Cette fois, pour cette seconde série de l'Esprit de Perfection, c'est presque à l'exact centre de Paris que nous nous sommes rendus. Place de la Madeleine, chez Luca Carton, chez Alain Sandrins. Autre perfectionniste en gastronomie, autre méticuleux des produits, des cuissons, des alliances rares, des associations gustatives inédites. Alain Sandrins partage avec tous les autres grands chefs français une sorte d'obligation de vigilance. Vigilance, encore une fois, sur les produits. Vigilance sur la qualité des présentations. Vigilance sur la régularité, sur l'exactitude des recettes. Mais il y a quelque chose en plus chez Alain Sandrins. Quelque chose qui lui est propre. L'invention culinaire. Presque chaque jour, Sandrins essaye une nouvelle idée. Rapproche des produits que la cuisson ou que la cuisine avait tenu éloignés. Mais peut-être, au plus essentiel, la quête de Sandrins est-elle encore dans l'inattendu des associations gustatives? Un fromage célèbre, par exemple, mais accompagné d'un vin, d'un cru, auquel personne n'avait songé. Enfin, nous avons été surpris de voir que notre conversation abordait, cette fois encore, le Japon, l'extrême oriental. Décidément, à chaque fois, l'archipel nippon était en quelque sorte au rendez-vous de nos rencontres. Même chez un grand chef français. Aujourd'hui, je ne pouvais éviter de lancer Sandrins sur la philosophie de la nouvelle cuisine.
Et les psychologues disent ceci, lorsqu'une idée nouvelle est acceptée par le public, c'est que ça comble un concept qui n'existait pas, mais que les gens consciemment ou inconsciemment avaient besoin de recevoir. Cela appliquait à la cuisine, ça veut dire que les gens, consciemment ou inconsciemment, avaient besoin de manger différemment. Alors on se pose la question, pourquoi ? Pour moi, il y a trois ou quatre raisons essentielles. Premièrement, l'éthique de la beauté. Vous vous rendez compte que depuis une dizaine d'années, tous les médias, les journaux parlent de les femmes filiformes, les produits de régime. Et tout ça fait que les gens avaient besoin donc de manger plus léger, moins gras pour la ligne. Et aussi la notion de santé qui est rentrée en ligne de compte. Tous les journaux parlent de sels minéraux, de vitamines. Avant, jamais en Occident, on n'avait parlé de notion de santé dans la cuisine.
Considération diététique.
Voilà. Troisièmement, l'évolution de la femme. Avant, la femme restait à la maison, préparait des plats de longue cuisson pour son mari. Aujourd'hui, la femme travaille, ne fait plus la cuisine, ou vite fait. Donc, il fallait que la cuisine bouge. Ces raisons essentielles, pour moi, expliquent pourquoi il y a eu ce mouvement qui n'est pas venu par hasard, même si ça déchire des habitudes, ça fait que dès qu'en France, il y a quelque chose de nouveau, on est contre. Et puis, la cuisine, vous savez, c'est l'art du souvenir. On embellit la cuisine de la mère, la cuisine de la grand-mère, il n'y a rien de meilleur. Et tout ce qu'on fera après, ça sera rien du tout.
À pas le souvenir.
Mais toutes ces choses, je les explique aussi d'une autre manière. Lorsque, il y a 2000 ans, Athènes était le centre du monde, les idées partaient d'Athènes. Ensuite, vous avez eu Rome, les idées partaient de Rome. Lorsque, à la Renaissance et au XVIIe, il y a eu la France et l'Europe qui ont dominé, les idées partaient de l'Europe. Au XVIIIe, vous avez eu l'Angleterre. Hier, même si ce n'est que le hamburger, les États-Unis avec Dallas nous ont envoyé leurs idées. Et aujourd'hui, je pense que la bouffe est un peu peinte en jaune, parce que la notion de santé nous vient du Pacifique, la présentation, le temps de cuisson réduit, tout ça vient du Pacifique, on reçoit une influence du Pacifique, et on ne l'a pas vu venir, parce que bien avant de nous envahir avec leur électronique et leur voiture, il y a eu déjà la philosophie qui est arrivée. Il y a eu les arts martiaux, et après il y a eu l'économique, et aujourd'hui il y a quelque chose de très important, je pense, d'une certaine façon. Je sais que je choque le français en disant cela, si on gratte, l'essence de la cuisine aujourd'hui n'est plus française, n'est plus occidentale, mais je dirais du Pacifique. Et ça, c'est important.
Vous me disiez l'autre fois que la cuisine japonaise, par exemple, était une cuisine qui avait 200 ans d'avance déjà,
oui,
même si on ne le savait pas.
Je crois que la cuisine japonaise, par sa conception, a 200 ans d'avance, le produit pour le produit. Déjà, Kurnonsky, il y a 20 ou 30 ans, je ne sais plus, disait que la cuisine doit avoir le goût des produits. Eh bien, la nouvelle cuisine l'a prouvé plus que la cuisine classique, alors qu'on jette la pierre à la nouvelle cuisine. Je trouve que la cuisine japonaise est une cuisine saine. Par exemple, la cuisine chinoise, c'est une cuisine qui est une cuisine du passé, c'est une cuisine qui est grasse, qui est lourde. Elle a le mérite d'employer tous les produits, de récupérer tout, mais la cuisine de l'avenir, c'est peut-être la cuisine japonaise. Et consciemment ou inconsciemment, les cuisiniers français s'en sont inspirés.
Voilà. Vous dites que la cuisine japonaise, la cuisine chinoise, pardon, est une cuisine de récupération.
Oui, c'est pas ça. De récupération, mais de récupération, mais puis de tous les produits qu'on jetterait. Une pâte de poulet, ils en font quelque chose. Le gésier, on le jette, ils en font quelque chose. Ils utilisent tout.
C'est une manière de cuisiner aussi. Accommoder les restes.
La nécessité.
C'est la nécessité dans ce cas-là. Et qu'est-ce que vous pensez alors dans cette cuisine japonaise des poissons crus, par exemple ?
Mais
là, c'est le qui degré est fait, zéro de la cuisine.
Oui, ce qui est fait au Japon et qui est transposé, par exemple en France, risque de poser des problèmes. Parce qu'au Japon, les poissons qu'on mange crus à midi ont été pêchés le matin. Et le poisson qu'on mange cru le soir a été pêché après-midi. Nous, des fois, on a des poissons qui ont 2 ou 3 jours, si ce n'est pas davantage, et ça peut créer des problèmes de santé, je dirais. Mais ce degré zéro de cuisine, comme vous dites, est très intéressant. Je crois que c'est le reflet de ce qu'est profondément le Japon. Nous, en Occident, pour évoluer, il faut qu'on fasse des révolutions. Il faut qu'on casse un peu le passé. Et le Japon, il n'y a pas cette nécessité pour évoluer. Ils ont su garder à côté de la tradition la vie moderne, s'adapter et sa vie parallèlement. Ces deux vies se côtoient sans aucun problème. Et le degré zéro de la cuisine japonaise, je l'explique de cette façon-là. C'est que c'est un pays aussi pauvre, il y a peu de terres, il y a peu de produits, et il faut donc biologiquement tirer la quintessence des produits. Alors c'est pour ça que les produits sont cuits rapidement. Aussi, il n'y avait pas beaucoup de bois pour cuire, donc ils sont restés près de la nature. D'ailleurs, leur langage et leur forme écrite est resté plus près, est un langage plus près de la nature que le nôtre, qui est plus intellectuel, je dirais. Et nous avons donc fait une cuisine plus intellectuelle qu'eux. Et c'est ça qui est passionnant, ça montre des mentalités complètement différentes.
En même temps, raffinement extrême, en particulier dans la présentation, le souci, je pense à ce détail, de jamais faire un plat symétrique, par exemple.
La vue au Japon est tellement importante que perdre la face, vous savez... Nous, on ne connaît pas ces choses-là. Je crois qu'à l'œil, déjà, on voit si on va accepter une chose ou la refuser. Que ce soit au niveau conscient ou inconscient, c'est la même chose. Vous voyez une personne. D'ailleurs, dans le langage populaire, on dit « je ne peux pas voir quelqu'un, je ne peux pas sentir quelqu'un ». Un plat, c'est la même chose. Vous voyez un plat, vous le repoussez ou vous l'acceptez. L'œil prend de plus en plus importance. Et quelque chose qui est beau, je dirais, est souvent bon. Quelque chose de pas beau est rarement bon.
Vous disiez tout à l'heure aussi que la cuisine, c'est un petit peu paradoxal immédiatement, faisait jouer les cinq sens.
Oui.
Alors qu'est-ce qui devient du sens de l'audition alors ?
Eh bien,
vous avez un exemple ?
Mais oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous avez vu le foie gras au chou. C'est un plat, je dirais, qui est mou, sans trop de texture. Et il fallait que je trouve une texture. Eh bien, très simplement, j'ai mis du gros sel et du poivre concassé pour qu'il y ait que ça craque sous la dent, pour que ça arrive à l'oreille. Un plat qui n'arrive pas à l'oreille, pour moi, n'est pas un grand plat. Il manque la plus grande des dimensions, c'est la musique. D'ailleurs, en cuisine, la musique, c'est très importante. C'est par le bruit que fait une matière grasse, le beurre ou l'huile dans le four, dans une plaque, qu'on sait si ça va vite ou si ça va pas vite. Des fois, on me demande le temps de cuisson des choses et je peux pas dire parce qu'on n'a pas de montre en cuisine et en plein service, il y a les gens qui regardent, qui ne sont pas du métier, qui regardent un service et qui voit les cuisiniers mettre des choses à cuire, et puis paf, ils sortent, et en un ou deux coups, c'est toujours la bonne cuisson. Pourquoi ? C'est une sorte de sixième sens, je ne sais pas. On oublie rarement quelque chose, et quand on touche du doigt, parce que c'est du doigt qu'on voit si une cuisson est juste. Et ma femme est toujours émerveillée, parce qu'elle vient un service, il y a 15 ans qu'elle voit ça, et elle reste toujours aussi fascinée par ce balai d'un service...
Vous venez de dire que la cuisson se juge au bout du doigt.
Oui.
C'est-à-dire ?
Eh bien, quand vous cuisez une viande, on ne va pas la couper pour voir si elle est bien cuite. Alors, on met le doigt dessus. Et alors, suivant le degré de résistance de la viande, on sait si elle est saignante, s'il faut la cuire un peu plus. Mais ça, c'est une habitude qu'on prend et qu'il faut peut-être 10 ans. Et puis, maintenant, machinalement, on le fait, on ne s'en rend pas compte. C'est au toucher. Qu'on voit comment revient la viande et tout ça. Et oui, la cuisine, c'est l'art du feu, c'est-à-dire qu'avant toute chose, c'est la cuisson juste et l'assaisonnement. Je dis à mes cuisiniers, quand vous avez réussi la cuisson et l'assaisonnement, vous avez réussi 90% de la recette, parce que c'est le côté technique. Hein. Moi, j'ai divisé la cuisine en deux. Le côté technique, comme dans toutes les formes d'art, le peintre, tout ça, il faut qu'ils savent tenir son pinceau et tout ça. Bon, ça, c'est la technique. Et puis après, il y a, je dirais, le côté créatif ou l'inspiration, ce qui est le reflet de la sensibilité de chacun de nous et qui fera que la recette sera différente ou qui va faire une recette équilibrée, qui aura des harmonies entre les produits, comme une harmonie dans un tableau où les couleurs complémentaires s'accordent merveilleusement avec la couleur principale. Et dans un plat, je dis tout le temps, un plat peut être sans intérêt, même il peut être très bon. Et pour moi, bon, c'est sans intérêt parce qu'il peut y avoir un bon produit, des bons produits, une cuisson juste, c'est bon. Mais il n'y a pas la notion d'art. Vous n'avez pas l'émotion. Et puis, parce que vous avez changé un produit, par exemple une carotte, et que vous avez mis un autre produit, avec telle chose, ça va faire une autre complémentarité et vous allez avoir une émotion parce qu'il y aura eu un peu plus d'originalité, un peu plus de complémentarité entre les produits. Et je pense que, comme dans toutes les formes d'art, c'est une recherche d'harmonie. Et ça, c'est la sensibilité du cuisinier. La sensibilité se cultive comme un muscle, je crois.
Alors ça, c'est le moment très précis où on invente une recette, ah, où oui. On crée un nouveau plat.
Oui.
Mais après, vous avez une obligation, comment est-ce qu'on peut l'appeler ? C'est une sorte d'obligation de vigilance, parce que l'ordinaire d'un grand chef, c'est aussi de maintenir de façon méticuleuse la qualité.
On croit que c'est le plus difficile. Non, quand on a une équipe avec soi qui marche bien, que les gars sont bien drivés, lorsqu'un cuisinier rentre au Lucas, pendant une semaine, on le brief, on lui explique surtout la mentalité, le climat, l'état d'esprit qu'il faut avoir, et on voit très bien s'il l'a ou s'il ne l'a pas. Et après, c'est facile. Lorsqu'il a fait une ou deux fois une recette, qu'on l'a surveillé, qu'il a fait bien, il n'a plus droit à l'erreur. Alors, on se trompe. Un cuisinier peut louper un plat, je le comprends parfaitement. Mais quand il met sur le passe son assiette, si l'assiette n'est pas parfaite, qu'il y a une erreur, il est viré sur le champ, il s'en va. Parce qu'il a voulu tricher. Il sait, un professionnel sait quand le plat est bien, sait quand il n'est pas bien. S'il met un plat pas bien, donc il est prêt à être donné au client, il mérite la sanction. Parce que le client, content ou pas content dans notre métier, il paye content. Vous allez acheter un tricot, une veste, une voiture, s'il y a une marque à la peinture, vous demandez une réduction, n'importe quoi. Au restaurant, vous ne demandez pas de réduction. Alors je pense que le respect du client, c'est que ceux qui partent s'assoient comme nous on l'a conçu et comme on pense que ça doit être. Après que le client n'aime pas. Ça, c'est une autre chose. Et il faudrait faire la différence entre ce qu'on n'aime pas et ce qui est mauvais. On peut ne pas aimer le style d'un cuisinier, d'un peintre, d'un musicien, et ce n'est pas pour cela que cette personne-là est mauvaise. Et il faudrait faire la différence entre ces choses-là.
Au risque de réduire quelque peu la complexité des phénomènes qui animent la nature vivante, on pourrait se risquer à dire que la vie sur la Terre se définit assez bien dans la question suivante : qui mange quoi ? Et est mangé par qui ? Et dans le style de Monsieur de La Fontaine, on pourrait évoquer à ce propos l'exemple de la tendre herbe broutée par un gentil mouton que guette pour s'en repaître le méchant loup. L'équation se précise quand on sait qu'il faut, grosso modo, à un herbivore 100 kilos d'herbe pour accroître son poids de 10 kilos, mais qu'il faut à un carnivore 10 kilos de chair d'herbivore pour accroître son propre poids d'un kilo. Dans cette chaîne alimentaire, il y a donc transfert d'énergie. La plante ne fournit à l'herbivore qu'une partie de ce qu'elle a reçu pour assurer sa propre vie, et l'herbivore fait de même à l'égard du carnivore. En conséquence, la nature vivante est organisée en une pyramide alimentaire avec une large base végétale, un étage plus réduit d'herbivores et des étages encore plus réduits de carnivores. La vie dans la biosphère, cette pellicule vivante qui recouvre notre planète, est donc fondée sur des relations alimentaires. Les hommes et leurs aliments, Jacques Barrault.
Vous disiez l'autre fois, à notre première rencontre, qu'il fallait avoir un timing, il fallait que les choses soient minutées, et qu'il était très désagréable en tout cas d'attendre. Vous preniez l'exemple, vous disiez on arrive dans un restaurant, on a faim.
Oui.
Et on ne va pas se mettre à attendre trois quarts d'heure.
J'essaie de traiter les gens comme j'aimerais être traité. Quand je vais dans un restaurant, si lorsqu'on a pris ma commande, si au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je n'ai pas mon premier pas, je me suis dit, ils sont dans la merde, quelque chose qui ne va pas et tout ça. Et donc j'évite ça. Et quand on est arrivé ici au Lucas, je sortais d'un restaurant, l'Orchestrate, où il y avait 12 tables, et j'arrive dans un restaurant où il y a 35 tables. Et quand le soir s'est bourré et que tout le monde arrive en même temps, gros problème. Il fallait organisation et il fallait retrouver un balai en roulement à billes. Alors j'ai eu l'idée, j'ai fait un tableau de bord avec un ordinateur pour que quand les choses doivent partir, ça s'allume et tout, comme dans les aéroports sur les tableaux d'embarquement. Et de cette façon-là, on ne peut pas oublier des choses et j'essaie de, que ça se passe bien. Je ne dis pas qu'on n'est pas à l'abri d'un malheur, de quelque chose, mais on fait tout pour que, à tous les niveaux, il y a des barrières, je dirais, pour éviter des catastrophes. Et il peut arriver une catastrophe, mais je ne veux pas qu'elle arrive au client. Il arrive une catastrophe, on va voir le client, on lui dit « Monsieur, on a loupé votre plat, on s'excuse, mais on le recommence. » Et je préfère ça que de donner un plat qui ne soit pas bien. Alors le client va râler sur le moment, mais quand il a son plat, après ça, ce truc, à la fin du repas, on lui offrira un coup s'il faut. Mais je préfère ça que de donner quelque chose qui soit à peu près.
Alain Sandras, on est dans un petit salon jaune, rond, avec une cheminée. Il y a une table sur laquelle on mange et qui est couverte d'une nappe blanche. On a des assiettes jaunes, avec un bord bleu, et puis il y a un magnifique bouquet de fleurs, jaune et blanc. Vous avez un bracelet de montre bleu et les montures de vos lunettes sont bleues. Alors, je subodore un souci d'harmonie là, non ?
J'avais pas pensé ce matin en mettant mes lunettes bleu et ma cravate bleue que ça serait bien avec ce bord bleu sur l'assiette jaune. J'avais pas pensé du tout à ça. Je suis obligé de porter des lunettes. Les lunettes, je trouvais ça au début triste. Et c'est ma femme qui m'a aidé un peu à chercher des lunettes. Et là, je me suis fait toute une série de lunettes quand j'ai vu. Et je crois que je suis la seule personne à Paris avec toute une série de lunettes de toutes les couleurs. Et je les harmonise à mes cravates et à mes pochettes. Alors ça fait sourire, on dit que c'est du superflu, on dit que je suis un dandy, etc. Ça m'est égal, ça m'amuse, ça me fait plaisir et je trouve ça finalement pas mal du tout en plus.
On arrive là donc sur un distinguo assez facile qu'on peut faire. Il y en a beaucoup qui confondent le luxe et le raffinement.
Oui, alors là aussi c'est une question qui m'est très chère parce que souvent les journalistes, tout le monde parle des grands restaurants comme des restaurants luxueux. Oui, ils sont peut-être luxueux, mais luxueux c'est une connotation un peu péjorative, un peu d'excès en toute chose et c'est pas forcément bien le luxe. Alors que je préférais qu'on parle, j'essaie de faire cela, et je voudrais qu'on y soit plus sensible, j'essaie de faire du raffinement, et je voudrais qu'on dise au Lucas, il y a du raffinement, je cherche le raffinement en toute chose, et même dans la gastronomie, quand les clients, pour honorer leur invité, se croient obligés de prendre des grandes bouteilles de vin, et suivant ce qu'ils ont pris, on leur dit, non monsieur, c'est pas forcément la bonne chose, et on leur explique, on fait le mariage des plats et des vins. Je vous ai fait goûter un ravioli de pétanque avec un chignin, c'est un vin de Savoie qui coûte trois fois rien, mais c'est un vin qui est remarquable et qui s'entend merveilleusement bien avec nos raviolis de pétanque, c'est une harmonie. Or, si on dit que la gastronomie est une forme d'art, je dis que nous devons rechercher des harmonies, des équilibres, et je pense que dans les restaurants, ce qui compte le plus, c'est le mariage du plat et du verre. Et c'est souvent ce qui est le plus négligé. Et sans arrêt, on fait des recherches pour trouver des harmonies. Et ces harmonies, justement, ne sont pas forcément chères. Et les harmonies que je trouve en ce moment, je dirais avec des vins historiques, des noyaux historiques, mais des vins qui n'ont pas la réputation du Bordeaux et du Bourgogne, parce que le français à 80% boit que du Bordeaux ou du Bourgogne. Je trouve que c'est une erreur. On a un vignoble extraordinaire en France avec des vins merveilleux et on peut faire des accords fantastiques. Par exemple, les gens snobs commandent du Rérès. Okay ? Or, il faut savoir qu'en France, il y a rarement du bon Rérès. Le Rérès, il a 6 mois de bouteille, il n'est pas bon, il a le goût de poussière. En reste, pour qu'il soit bon, il faut qu'il ait maximum un mois de bouteille. 2 mois, disons, à la rigueur. Alors, de temps en temps, il m'arrive d'en avoir parce que j'embête mes fournisseurs et tout. En plus, je fais des trucs presque illégaux pour aller chercher une bouteille, mais parce que je suis passionné et que je veux ça, alors de temps en temps, j'en ai. Mais, savons-nous que dans le Jura français, nous avons les Côtes de Chalon, nous avons des vins du Jura extraordinaires. Et je vais vous en faire goûter tout à l'heure avec un Fribourg. C'est une harmonie fabuleuse. Ce vin-là, qui coûte 2 ou 3 fois moins cher qu'une bouteille de Rérès, qui est peut-être 5 fois meilleur. le français, le gastronome français n'en tient pas compte. Et ça me désole. Ça me désole parce que on est fait d'habitude, on boit du Bordeaux, on boit du Bourgogne, on croit que ça fait bien. Et pour moi, je dis que beaucoup de gastronomes français ont finalement beaucoup de mauvais goût. Et qu'il y a des gastronomes étrangers, ont beaucoup plus de connaissances. Parce qu'au départ, ils savaient qu'ils ne savaient pas. Ils ont appris. Ils sont allés dans des écoles de vignobles, de vin, apprendre le vin, charge comme ça. Et j'essaie donc de valoriser des vins français, comme ce Côte du Jura qui est extraordinaire. En plus, l'avantage de cette bouteille, c'est que ça peut être ouvert 2 mois et ça ne va pas bouger. Et c'est la même chose. En plus, c'est la même chose que le RS. Parce que ce sont les Espagnols, quand ils étaient dans le Jura, qui ont implanté cette vinification. Mmh. Parce que le Côte du Jura, c'est la même vinification que le RS. C'est une bouteille qui met 6 ans à se faire. Et il y a des années, quand le voile ne se fait pas la vinification, ils virent le vin, ils en font du vinaigre. Et c'est des gens qui ont un mérite extraordinaire. Nous devons les aider contre la bêtise française, je dirais. Et il y a la même chose avec le Porto et le Banyuls. Bon, je ne dis pas que le Porto n'est pas bien, mais je dis que nous avons en France un Banyuls extraordinaire qui se marie beaucoup mieux avec la fourme d'Amber que le Porto. Bon, si vous avez du Sultan, vous prenez un Porto, c'est logique. Mais des fois, je vois mettre du Porto à la fourme d'Amber. Bien sûr, c'est une main gauche, mais ce n'est pas la perfection. On a du Banyuls, on a des vins extraordinaires en France et on va chercher l'équivalent ailleurs. Alors pourquoi ?
On a un grand terrain d'investigation alors, sur notre territoire et dans notre terroir.
Brouet-Sarrazinois, ménagier de Paris, 1394. Écorcher l'anguille et découpez-la bien par menu tronçon, puis poudrez de sel et frisez-la en l'huile, puis broyez gingembre, cannelle, girofle, graines, garingales, poivre long et safran pour donner couleur, et de verjus, et bouillir tout ensemble avec anguilles qui d'elles-mêmes font liaison.
Vous avez aussi investigué dans le passé, puisque vous avez une recette célèbre maintenant, piquer des romains de canard avec des figues.
Cette histoire est très sympa parce que Jean-François Revel a écrit un livre qui s'appelle « Festin en parole », qui est, disons-le, un livre réflexion intellectuelle sur la cuisine, et notamment la cuisine romaine. Et à la sortie de ce livre, avec le Club des Saints, ils ont voulu que je fasse un repas romain. Et dans le menu que j'avais fait, il y avait ce canard apicius, une recette qui a plus de 2000 ans. C'est un canard qui est poché, qui est ensuite rôti avec du miel et des épices, je dirais savamment dosé. Et deux garnitures, une qui s'appelle des oxyporions, c'est une purée de dattes au gingembre et à la menthe fraîche. Et l'autre, c'est de la datte du coin au safran et au vinaigre. Et les Romains appelaient ces purées des oxyporions. Ça veut dire littéralement qui aide à la digestion. Et comme j'ai pas mal de médecins, de laboratoires pharmaceutiques, je leur ai donné ce truc et ils m'ont dit que c'était tout à fait vrai. Alors, c'est un plat qui peut choquer parce que c'est un plat qui est assez sucré, un peu plus qu'un canard à l'orange.
Il y a le contraste des épices.
Mais il y a le contraste des épices, c'est un plat qui est très parfumé, et c'est un plat maintenant devenu vedette que je ne peux plus enlever de la carte parce qu'on le réclame. Et justement, le problème de ce plat, ça a été de trouver l'accord avec les vins. Et j'ai essayé presque tous les vins du monde, surtout les vins grecs et les vins italiens.
Parce qu'ils le buvaient avec quel vin, est-ce qu'on le sait,
à l'époque? Avec les vins romains, où ils mettaient encore, à ce moment-là, il était coupé d'eau, le vin. Parce que c'était un puissant charnu. Et finalement, on a trouvé le Banyuls, que je vous parlais tout à l'heure, qui est un accord extraordinaire parce que vous mettez le nez sur le Banyuls et sur le canard, ce sont les mêmes arômes. Vous avez une assiette avec un morceau de Fribourg et un morceau de Munster. Alors en France, on a toujours dit que le fromage est l'ami du vin rouge. Pour moi, c'est la plus grande hérésie maintenant. Parce que il faut savoir, avant, ça passait peut-être. Parce que les vins étaient vinifiés d'une façon différente. Les vinifications étaient plus longues. Le vin était bon à boire au bout de 10 ans. Alors ça faisait des vins un peu plus charnus, je dirais. Et alors peut-être qu'ils se mariaient davantage avec les fromages. Aujourd'hui, on fait des vinifications plus courtes et le vin est bon à boire au bout de 2 ou 3 ans. Alors peut-être aussi qu'il y avait l'intérêt de l'argent qui devait compter. Mais finalement aussi, on n'a pas parlé de ça. La cuisine a évolué. Mais sans se consulter avec les vignerons, ils ont changé la vinification. Or, il se trouve que la cuisine d'aujourd'hui se marie parfaitement avec les vins d'aujourd'hui. Mais nous avons fait des expériences. J'ai refait des recettes de seulement il y a 50 ans. Écoutez bien, avec des œnologues, j'ai fait des recettes d'il y a 50 ans, telles qu'elles étaient faites il y a 50 ans. C'est pas vieux. Eh bien, il n'y a aucun vin d'aujourd'hui qui ne se marie avec les plats de 50 ans. Et la même chose. Bien sûr, si on prend des vins de 50 ans, ils seront un peu le chapeau sur l'oreille, comme on dit. Mais ils ne vont pas bien avec la cuisine d'aujourd'hui. Donc tout ça, ça fait un bel accord, je dis. Alors pour en revenir au fromage et au vin, on dit en France que le fromage est l'ami du vin rouge. Et je dis que non. Avec des plus grands œnologues français, on a fait des dégustations. Un vin rouge sur le fromage peut perdre jusqu'à 50% et plus de sa valeur gustative. Parce que le tanin des vins rouges et le gras des fromages ne se marient pas bien. Et que les plus grands accords de fromage et de vin sont fromage et vin blanc ou fromage et eau de vie. Et bien sûr qu'il y a toujours des accords avec du vin rouge, avec des pâtes cuites, on va trouver des choses. Mais il ne faut pas dire que c'est la règle. En France, le français pense que la règle de l'accord, c'est le vin rouge et je dis non.
Alors,
j'ai commencé il y a 10 ans à faire ça. On m'a pris pour un fou, ça commence à venir et tout ça. Et je sais qu'il y a des gens qui sont contre ça totalement. Mais je leur demande de pas parler, de pas réagir avec leur cœur ou avec leur ventre, mais d'essayer d'être juste un jour et qu'ils se mettent devant une assiette, qu'ils goûtent leur vin d'abord, qu'ils mangent le fromage et qu'ils regoutent le vin. Et ils verront. Ils verront s'ils sont honnêtes que j'ai pas complètement tort. Alors moi-même, il m'arrive de temps en temps de prendre un coup de rouge comme ça avec un camembert. Et bien sûr, on a été élevé comme ça et tout ça, on a un certain plaisir. Mais non, moi je ne peux plus le faire maintenant. C'est fini.
Alors j'ai une petite question spécialisée. Je suis originaire de Lyon. Et il y a un fromage qui n'est pas du Lyonnais, mais qui est de l'Isère, que j'aime par-dessus tout. C'est le Saint-Félicien. Et quand on mange du Saint-Félicien et qu'on l'accompagne de vin rouge... Et si on l'accompagne avec un mâconnais blanc, il y a un contraste, c'est plus le même fromage. Mais je crois que les deux peuvent aller, le rouge et le blanc dans ce cas-là.
Bien sûr, il y a certains.
Alors que dit le spécialiste ?
Les vins rouges qui ont pas trop de corps, qui sont pas trop tanniques, peuvent aller avec certains fromages, oui. Je veux dire par là que il y a pas forcément des règles. Établi, avant on mettait des règles, établi des choses comme ça. Je veux pas établir des règles parce qu'on va encore ficher les choses et puis que certains fromages, suivant comme ils sont faits, plus ou moins fermentés, plus ou moins évolués, seront différents. Alors, moi je fais part de mes recherches, je fais part de mes goûts et qui même me suivent. Parce que quand on vient dans nos restaurants, dans les restaurants où le patron est un grand chef, on vient nous manger notre personnalité, on vient manger notre sensibilité. Alors des fois on s'accorde avec des clients, des fois on ne s'accorde pas.
Vous arrivez le matin chez Luca Carton, c'est quoi votre premier objet de vigilance alors ? Vous regardez les produits ?
Bien sûr, alors les produits sont surveillés avec beaucoup de rigueur. Nous avons la chance d'avoir sélectionné depuis plus de 10 ans des fournisseurs qui sont formidables et on a, disons, très très peu de problèmes. Et ça, c'est une grande chance. Donc la première des choses, quand j'arrive, je dis bonjour à tout le monde et puis je vais surtout en cuisine, je passe un grand moment. Mais je suis le chef d'une entreprise et je dois m'occuper aussi de beaucoup d'autres choses. Et on passe beaucoup de temps l'après-midi avec Bertrand, mon chef, Dominique le sommelier, pour des recherches, des mariages et plats avec des vins. On fait des essais tous les jours. Tous les jours, on goûte des plats. Et il n'y a que comme ça qu'on peut progresser.
L'un des chefs de rang, je ne sais pas son titre exact, disait qu'il était tout à fait content, en plus, d'être dans cette équipe qui teste des choses.
Ah, c'est Dominique, sûrement.
Ça, c'est l'esprit d'entreprise, ça, c'est voir la philosophie d'entreprise.
Oui, je pense que où on a des gens compétents avec soi, il faut qu'ils participent et chacun a des responsabilités bien définies parce que je ne pourrais pas tout faire. Ou bien je fais découvert et je fais tout moi-même. Et je suis un entraîneur qui donne un climat, qui donne un état d'esprit, une mentalité, une façon de jouer. Je sélectionne les bons joueurs, les mauvais, je les mets sur la touche. Et je suis l'entraîneur d'une équipe de foot. C'est la communication entre nous qui est aussi très importante. La communication dans une entreprise est souvent négligée. Mais si chaque personne est heureuse de travailler, il n'y a pas de problème. Moi, je vois bien, quand je travaille chez les autres, si je n'étais pas heureux dans une maison, je me tirais. Donc, si tout se passe bien, tout le monde est heureux. Et si ils sont heureux, ça se voit dans le travail. S'ils sont malheureux, ça se voit.
Alors, dernière petite confidence avant qu'on passe à autre chose. Petit exemple, Alain Chapelle, que nous avions visité, disait qu'il avait le souci des bouquets, par exemple, et qu'il tenait beaucoup, lui, à organiser, selon les fleurs de saison, les différents bouquets.
Oui,
C'est quoi l'analogue, alors? Vous avez une petite... Comment l'appeler, on va dire? Même, est-ce que vous avez une petite obsession, une petite maniaquerie?
Bien sûr, j'ai les bouquets, là, c'est ma femme qui s'en occupe, tout ce qui est décoration, c'est ma femme qui s'occupe, qui est chargée de ça et qui est très forte là-dessus. Moi, ma maniaquerie, c'est les vins et la cuisine, les détails en cuisine, comment toujours on pourrait améliorer.
Quand on s'est promené ensemble, j'ai vu que vous étiez comme tous les autres chefs, tous les autres grands chefs que j'ai pu rencontrer. On s'est promené 5 minutes autour des cuisines ou dans les cuisines et vous aviez d'un geste extrêmement bref une bouteille à faire enlever, une assiette à faire déplacer.
Il y a toujours plein de détails. Et oui, il faut avoir l'œil et c'est ce qui compte le plus parce qu'il y a pas de la négligence, je dirais, mais il y a beaucoup de travail à faire et il y a toujours donc soit quelque chose qui peut être oublié, soit un petit coup d'oubli. Je pars du principe, par exemple, en cuisine, que à la fin du service, la cuisine doit être aussi propre qu'au début et que si au fur et à mesure qu'on travaille, on essuie sa place de travail, il ne doit pas y avoir de problème. Alors, des fois, c'est un peu dur avec certains, mais on y arrive.
J'ai l'impression que c'est un peu une règle d'or des 3 étoiles, ça.
Mais écoutez...
D'ailleurs, c'est le bonheur de voir une cuisine de 3 étoiles.
Il faut que ça soit toujours impeccable et c'est difficile des fois.
Alain Zindrins, vous êtes né hier.
Oui.
Et ensuite, quel a été le parcours? Alors, vous avez fait une station à la Tour d'Argent, vous avez fait une station chez Luc à Carton.
Oui.
Dans quel ordre?
Quand je suis monté à Paris, comme on dit, j'ai fait la Tour d'Argent, le Luc à Carton, le Berkeley. À l'époque, le Berkeley était une grande brigade avec le chef Moreau. Je travaillais avec Robuchon. Faugeron. Ici, il y a eu Bocuse qui a travaillé, trois gros, tous les grands chefs sont passés dans les murs du Luc à Carton. Et on a, bon, comme tous les cuisiniers d'aujourd'hui, à chaque époque, il y a des grands restaurants et on essaie, ceux qui en veulent le plus, on essaie de travailler dans les meilleurs établissements de l'époque.
Et votre vocation est née assez tôt, on dit qu'à 14 ans, vous étiez avec la grand-mère qui avait 14 bouches à nourrir et qui faisait même son pain.
Oui, c'est vrai, j'ai eu la chance d'être dans une famille où la nourriture était, je dirais, quelque chose de sacré. Toutes les fins de semaine, on se réunissait à la Battute Rivière, à la limite des Hautes-Pyrénées et du Gers, et toute la famille, les oncles et tantes venaient, on était 12-14 à table, tout le monde participait, on allait braconner, on posait des pièges, on posait des lignes de fond dans la Dour, et on faisait toujours des repas extraordinaires.
Et là, vous avez su que vous aviez la vocation très tôt?
Non, à ce moment-là, je ne pensais pas faire la cuisine. Je suis rentré tard dans le métier à 18 ans. Mais être dans une famille de gastronomes, on est toujours...
Après votre bac, donc, vous avez commencé la cuisine.
Oui, à l'époque, on rentrait à 14 ans dans le métier de cuisinier. Je ne regrette pas, à l'époque, ça m'a paru dur, mais j'ai une autre ouverture sur le métier, peut-être.
Vous nous disiez tout à l'heure que, pour des raisons philosophiques, culturelles, diverses, la cuisine avait été considérée, en tout cas, comme... pour parler vite, comme une sorte d'art mineur, alors que c'était quasiment un art majeur. Et vous avez dit, au risque de vous faire taxer de cuisinier intello, intellectuel, qu'il pouvait y avoir une page de littérature qui soit l'analogue d'une harmonie entre différents goûts.
Oui,
est-ce que vous pourriez expliquer ça alors ?
Je dis que chez certains grands chefs, pour qui j'ai de très grand respect, de très grandes maisons, je dis qu'on peut avoir des émotions aussi grandes que devant une page littéraire, musicale ou un tableau. Je pense qu'avec l'influence judéo-chrétienne, tout ce qui avait un rapport avec l'essence était péjoratif. Je pense qu'on est dans une époque où cela est terminé et ça va faire de belles années pour la cuisine.
Et vous le voyez comment alors l'avenir de cette cuisine ? Bon, on va vers la cuisine japonaise alors, comme on a dit au début.
Non,
une plus grande simplicité.
Oui, où la notion de santé va compter de plus en plus. Parce que pourquoi on mange ? Pour se maintenir en santé, pour se maintenir en vie et avoir du plaisir, bien entendu. Il n'est pas question de le supprimer. Mais le plaisir sera maintenant davantage lié à la notion de santé, ce qui avait été complètement négligé jusqu'à présent en Occident. C'était la grande bouffe. On se détruisait par la bouffe. Aujourd'hui, c'est fini. On veut avoir le plaisir. On veut, l'homme d'affaires qui vient déjeuner veut pouvoir travailler l'après-midi. Avant, les déjeuners s'étaient terminés à 4 ou 5 heures, ils ne travaillaient pas presque. Et aujourd'hui, les jeunes chefs d'entreprise veulent bosser.
S'il fallait décrire les choses selon les rythmes, quand on organise un menu, y a l'entrée, il y a le plat principal, c'est deux rythmes déjà différents, et puis après on arrive au rythme. Et généralement, c'est l'essentiel est du salé. Il peut y avoir des harmonies fines avec du sucré à l'intérieur. Et puis d'un seul coup, on débouche sur le franchement sucré, puisque c'est les desserts. Comment vous pouvez les caractériser, ces trois rythmes-là ? Vous les voyez comment ?
Bien, l'entrée doit être légère pour ne pas... et aussi pas trop chargée en arôme, je dirais, pour pas tuer le plat qui va venir. À la limite, c'est comme le champagne en apéritif doit vous mettre en appétit, je dirais. Puis le plat de résistance doit être un plat majeur, doit être plein totalement, apporter toutes les satisfactions gustatives, sensorielles. Ça doit être un grand moment, le plat.
Si on continue à faire cette comparaison avec les autres arts, alors... Je continue cette métaphore-là. Vous pouvez être l'analogue d'un peintre. Or, les peintres, ils se caractérisent par des styles.
Oui.
Et si, c'est peut-être un petit peu difficile comme question, mais si je devais vous demander qu'est-ce qui caractérise d'abord votre style, le style Alain Saint-Rhin, c'est quoi alors ? C'est le contraste du sucré et de l'épice ? C'est...
Oh, ben, vous savez, chaque plat est différent. Parce que la carte d'un restaurant, pour moi, vous savez, avant, la carte des restaurants était très grande. Il y avait beaucoup de plats.
Oui.
Or, ça empêchait peut-être la fraîcheur des produits. Moi, j'ai 7 entrées, 4 ou 5 poissons, 7 viandes, 7 ou 8 desserts, même pas. Et c'est tout. On préfère renouveler plus souvent. Ça fait moins de travail en cuisine, mais on peut soigner davantage chaque plat.
Donc une petite sélection, mais un grand éventail de goûts
voilà.
Dans la sélection.
Voilà.
C'est bien ça.
Oui.
Et c'est ce que vous cherchez à faire.
Dans la composition de la carte. Et c'est vrai que chaque cuisinier a un style, comme un écrivain a un style, comme un peintre a un style. Alors mon style est peut-être plus, je dirais, exotique, plus mondialiste. Je pense que l'art n'a pas de frontières, la technique n'a plus de frontières aujourd'hui. L'ordinateur est le même à Paris, à New York ou à Tokyo. Et je pense que je peux prendre une inspiration japonaise ou sud-américaine ou française. Alors des fois on me reproche, oui, que je ne suis pas très français, mais qu'importe.
On vous dit grand amateur de livres anciens de cuisine aussi, Alain Saint-Drin. Alors vous avez une grosse bibliothèque, vous êtes un bibliophile de...
Hélas, j'aimerais en avoir davantage, mais...
Et qu'est-ce que vous cherchez dans ces anciens livres ?
Quand je me suis installé en 68 rue de l'Exposition, ma première période de cuisinier...
La période bleue ou la période rose ?
...a été de chercher dans les vieux livres de cuisine des vieilles recettes complètement oubliées et de les adapter au goût du jour. Alors j'ai fait des têtes de veau en tortue, une recette complètement oubliée parce qu'on faisait que la tête de veau gribiche. J'ai fait des quenelles de lièvre, j'ai fait du jambon de mouton... J'étais au début des premières terrines de poisson, qui étaient recettes du Moyen-Âge. Et ça, c'était en 68. Donc, tout de suite, j'ai eu la chance d'être un cuisinier et un restaurateur différent des autres. Et je n'ai pas été le 10 000e ou le 50e restaurateur à la queue leu-leu. J'ai eu un style très différent dès le départ.
Est-ce qu'on peut faire un tout petit peu d'histoire, Alain Saint-Drin ?
Oui.
Qu'est-ce qui caractérisait vraiment la cuisine médiévale et après la coupure de la Renaissance ?
Jusqu'au Moyen-Âge, il y avait énormément d'épices. La Renaissance en employait, mais ça a commencé à diminuer. À la fin de la Renaissance, il n'y avait pratiquement plus d'épices. Et en 1650, on a commencé à voir naître... Je dirais ce qu'on pourrait appeler la grande cuisine, où le sucre a diminué, les épices ont diminué, mais on a vu avoir des assaisonnements plus près de nous, avec le vinaigre qui rentrait, des anchois pour l'assaisonnement aussi. Et puis ça a été le début des grandes sauces, des fonds, des roux. On peut dire que la grande cuisine a commencé à naître à ce moment-là.
À partir du moment où on a eu des fonds de sauce,
oui.
Et au Moyen-Âge, avec toutes ces épices, il y a une raison diététique ou c'était simplement un goût prononcé, purement culturel ?
Je pense que chaque époque a ses modes et ses goûts. Alors, il y avait eu les croisades au début du Moyen-Âge.
Ça, c'est l'influence du Moyen-Orient. Saint-Louis mettant des épices dans ses plats.
On a ramené les étoffes colorées, on a ramené les épices, et comme c'était très cher, c'était snob, et voilà.
Fèves fraîches en potage... Platinant François, 1505. Mets ta fève fraîche bien nettoyée et lavée sur le feu, et quand commencera à bouillir, exprime l'eau et la mets hors du pot, et en mets de rechef de fraîche, jusqu'à ce qu'elle surmonte de deux doigts les fèves, et y mets sel à ton avis, et fais bouillir ta potée bien couverte et loin de la flamme pour cause de la fumée, et ce, jusque la dite potée sera bien cuite et rédigée, formant une pâte. Après, la mettra au mortier et agitera, et mêlera y sel très bien et la réduira en un corps, puis de rechef, la tournera au fond du pot et la fera chauffer. Et quand voudra faire tes plats ou écuelles, confiera ta viande en cette compote qui s'ensuit. Écuira premièrement des oignons découpés bien menus en huile fervente dedans un pot, y mettra de la sauge, des figues ou des pommes découpées bien menues à petits lopins. Et cette confection toute bouillante et fervente infondira et mettra dedans tes plats ou écuelles où sont tes dites fèves et présentera sur table. Aucun y veulent par-dessus aspargir des épices.
Quel rapport est-ce que vous entretenez avec vos fournisseurs ? Parce que là encore, j'ai l'impression que c'est un point commun. Tous les grands chefs ont des rapports, là encore, avec les guillemets qu'il faut, un peu maniaques avec leurs fournisseurs. Mmh. Vous allez les visiter, vous avez votre fromager, vous le connaissez
bien
sur
sûr,
Paris, vous
sûr.
Allez vous balader en province.
Alors, de temps en temps, on va les voir, mais moi, la plupart, comme je vous disais tout à l'heure, ma plupart des fournisseurs, je les ai depuis 10 ou 15 ans. Il n'y a eu qu'un fournisseur que j'ai changé pour vous dire. Parce que c'était du temps du père, le fils après la suite, il a préféré faire des produits peut-être plus rentables, modifier certaines choses et qui ne me convenaient plus. Et c'est le seul fournisseur que j'ai changé.
Et vous en visitez quelques-uns ou vous les connaissez sur Paris ?
Oui, on les connaît, ils viennent nous voir ou on va les voir et on a un très bon rapport, bien sûr.
Alain Saint-Reims, il y a une question qu'on ne peut pas éviter, puisqu'on imagine toujours, on pense toujours que les trois étoiles sont des lieux, sinon de luxe, en tout cas des lieux chers. Et puis d'un autre point de vue, on peut dire que ce ne sont pas chers du tout, compte tenu du travail extraordinaire et de la minutie, de l'attention et de la qualité des choses. Alors sur cette espèce de truisme, les trois étoiles, ils ont des réputations usurpées, ils sont chers. Qu'est-ce que vous répondez alors ?
Je trouve que les restaurants trois étoiles sont pas chers du tout. Un rapport qualité-prix. Lorsqu'on voit ce que coûte une paire de chaussures, je sais que la paire de chaussures sert davantage, ou ce que peut coûter le chemisier d'une femme chez un grand faiseur. Je pense que les gens sont loin de la réalité. Nous avons des produits qui coûtent cher. Par exemple, le saumon d'élevage coûte 80 francs, car un vrai saumon, il coûte 160 francs. Quel est le client qui fait la différence? Il voit que la différence du prix, mais souvent il ne se rend pas compte qu'il y a au départ des produits qui coûtent du simple au double. La grande restauration française n'est pas chère. Quand je vais à Tokyo, par exemple, un grand restaurant japonais, ça coûte 2000 ou 3000 francs par personne. Il faut quand même le savoir. À New York, les grands restaurants sont plus chers que les restaurants français. Arrêtons de dire que les grands restaurants sont chers. Et quand vous allez manger pour 200 ou 300 francs dans un bistrot, eh bien, ils gagnent 3 fois, 4 fois plus d'argent que nous. Moi, je peux montrer les bilans. Les grands restaurants peuvent montrer leurs bilans. Nous ne sommes pas des voleurs. Et si on devait chiffrer nos plats comme un garagiste au temps passé, on vendrait sûrement 30 ou 50% plus cher. Non, vraiment, je crois que les grands restaurants sérieux sont pas chers.
Vous avez le sentiment quand même que les clients le savent, non ?
Oui, les clients le savent, mais souvent, des fois, c'est la presse qui parle des prix. Mais parce qu'il faut critiquer un peu, je pense, vraiment,
sincèrement. Il faut trouver quelque chose à dire, quoi.
Voilà, je pense que ça serait intéressant de faire des rapports qualité-prix. Je pense qu'on serait les mieux placés.
Ton cru au condiment. Temps de préparation, 20 minutes. Marinade, une demi-journée. Ingrédients pour 4 personnes, 600 g de queue de thon frais, une tête d'ail, 3 cuillères à café de gros sel, 2 cuillères à café de cumin, 1 cuillère à café de mignonnette, poivre en grains, 2 cuillères à café d'aneth, une demi-cuillère à café d'origan. Préparation. Levez le thon en filet en prenant soin d'enlever toutes les arêtes. Concassez finement le poivre en grains, mignonnette. Mélangez la mignonnette, gros sel, cumin, aneth, origan. Frottez les filets de tous ces condiments et laissez mariner pendant une demi-journée. Enlevez le gros condiment et tranchez très finement le thon. Étalez-le sur une assiette. Servez bien frais. Alain Saint-Reims.
Est-ce qu'on peut jouer au petit jeu habituel auquel on a joué avec les autres chefs ? Quel est votre fruit préféré, Alain Saint-Reims ? Spontanément.
La poire.
Votre fromage préféré ?
Tous.
Vous me disiez l'autre fois que vous pourriez vous nourrir simplement de fromage.
Oui, oui.
Et ça irait très bien.
Oui.
Si vous n'étiez pas un grand chef et que vous fassiez un autre travail...
Si j'étais obligé de me nourrir chez moi, seul, je crois que je ne m'embêterais pas. Je mangerais souvent que du fromage.
Alors on continue. Et votre fruit de mer ?
L'huître.
Et comme viande ? Une volaille plutôt que...
Non, le bœuf ou l'agneau.
Le bœuf ou l'agneau. Et comme salade ?
La frisée. Ou le pissenlit quand il y en a.
Ah, le pissenlit. C'était L'Esprit de Perfection, une émission de Stéphane Delisgeorge. Rencontre aujourd'hui avec Alain Saint-Reims. Mixage Jean-Claude Gauthier. Réalisation, Aini Wojciechowska.
C'était un numéro de L'Esprit de Perfection de Stéphane Delisgeorges, diffusé pour la première fois le 22 novembre 1987.